Donc aujourd'hui, on va avoir une prédication, un message assez simple. OK? Donc on va être dans Philippiens, chapitre 1, mais pas tout le chapitre, et chapitre 2, et encore pas tout le chapitre. Donc on va faire globalement une simple lecture avec quelques commentaires. Philippiens. L'épître aux Philippiens, Paul, à l'église de Philippe. Donc on va commencer dans le verset 6, chapitre 1, verset 6. Et de temps en temps, je vais faire des petits commentaires ou après un paragraphe, je ferai un commentaire. Philippiens chapitre 1, et on commence la lecture au verset 6. Philippiens chapitre 1, au verset 6. Lisons. C'est Paul qui écrit. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Donc, première chose que je voudrais dire, c'est que, bon, Paul écrit ça par l'inspiration du Saint-Esprit aux chrétiens qui sont à Philippe. Mais il faut bien comprendre que c'est Dieu qui écrit ça à vous, à moi. Donc, on peut comprendre que Dieu, d'après la parole de Dieu, Dieu dit qu'il accomplira son œuvre en chacun d'entre nous. Il a déjà démarré une œuvre, il va l'accomplir. Et il dit aussi qu'il nous chérit tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ça, c'est pour nous rassurer. Il nous aime et ce qu'il fait en nous, il ne va pas abandonner, il va achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Au verset 7, il y avait deux mots, le mot « la défense » et le mot « la confirmation de l'Évangile ». Donc, ce mot « défense », c'est le mot pour nous, on va dire, en théologie, apologétique. C'est la défense, c'est l'explication, c'est le raisonnement. Pourquoi nous croyons à la parole de Dieu? Pourquoi l'Évangile, c'est la vérité, etc. C'est l'explication. Quand quelqu'un vous pose une question et vous répondez à cette question, vous faites de l'apologétique. OK? C'est répondre ou défendre la vérité. Et puis, il y a ce mot « confirmation ». Bon, ici, c'est le nom, OK? Mais on a aussi, dans Marc chapitre 16 et Hébreux chapitre 2, le même mot, mais le verbe, OK? Et ce que nous comprenons, c'est que pendant la vie des apôtres, Dieu confirmait l'Évangile. OK? Ce mot « confirmer », c'est établir ou ratifier. Dieu confirmait l'Évangile, c'est-à-dire il a creusé les fondations du christianisme biblique, attention, hein, du christianisme que nous avons là dans ce livre, dans la Bible, christianisme biblique, par des démonstrations de la puissance de son Fils ressuscité. C'était pendant la vie des apôtres. Et en dépit de la propagande moderne, Dieu ne pose plus la fondation. Dans l'illustration biblique, donc Dieu a, donc la pierre angulaire c'est Jésus-Christ, Dieu a posé la fondation des apôtres et il construit cet temple jusqu'à sa finition. Il ne veut pas recommencer avec une autre pierre angulaire et une autre fondation et un autre bâtiment. OK? Donc, il faut bien comprendre que ces autres choses qui prétendent avoir eu une seconde Pentecôte ne peuvent pas être vraies. D'ailleurs, Paul a critiqué les Corinthiens parce qu'eux, ils voulaient recréer un autre christianisme déjà dans le premier siècle. C'était une partie des problèmes des Corinthiens. Il a dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On ne peut pas recommencer. C'est déjà commencé. C'est déjà presque fini. Et ce n'est pas maintenant qu'on va recommencer. OK? Donc, j'ai réfléchi sur cette idée et j'ai trouvé intéressant qu'au début de la loi, OK? Donc, je ne parle pas d'Abraham, Isaac, Jacob et les X siècles en Égypte, pendant qu'Israël était en esclavage. Mais depuis le moment qu'ils ont quitté Égypte et ils ont arrêté à le mont Sinaï, et Dieu a commencé à donner la loi. Dieu a pris 40 ans pour créer ce peuple et puis ils sont entrés dans le pays. OK? Ça, c'était le début de la loi, les fondations de la loi. Après, avec l'Évangile, Dieu a fait à peu près pareil, plus ou moins 40 ans depuis l'année de la crucifixion et de la résurrection dans l'année 30, jusqu'à la destruction de Jérusalem à l'année 70. Donc, ça fait 40 ans que le christianisme était confirmé dans le monde. J'ai trouvé un parallèle intéressant. Ce n'est pas dire que bon, tout ce que j'ai dit là, c'est absolument correct, mais c'est un parallèle intéressant. Okay? Verset 9. Et ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, on a deux mots là, pur et irréprochable. Donc, pur, c'est non contaminé. OK? Donc, si vous voulez boire de l'eau, vous voulez qu'il n'est pas contaminé. OK? Pur. Et irréprochable, c'est l'idée non offensif. Vous ne trébuchez pas, vous ne causez pas les autres gens à trébucher. C'est cette idée-là. Donc, dans ce petit paragraphe, nous avons un rappel des appuis de la foi. Je vous ai parlé des appuis ou des aides de la foi dans les autres deux prédications, les dernières deux prédications. Et donc, je vais le toucher encore rapidement. On a dans ce paragraphe le mot « amour », on a le mot « connaissance ». Alors, vous pouvez imaginer que la connaissance est nécessaire comme base pour avoir une pleine intelligence. Intelligence et sagesse ne sont pas la même chose. Okay? Donc, il faut avoir connaissance pour que vous ayez suffisamment d'informations dans votre esprit. Donc, quand il dit pleine intelligence, il parle de la capacité de percevoir, de comprendre, de juger. Aussi, la défense et le discernement. Donc, comment vous allez défendre la foi si vous n'avez pas une connaissance? Ou comment discerner ce qui est le meilleur si vous n'avez pas de connaissance? OK? Et le mot discernement, ça veut dire la capacité d'approuver par évaluation. On a aussi, donc, amour, connaissance, piété. Ça faisait partie des appuis de la foi, la piété. Donc, la piété focalise sur la sainteté de Dieu, vous allez vous rappeler. Et on a ici, donc, le mot pur, que je viens de vous donner, mais je vais ajouter que ça veut dire juger à la lumière du soleil. C'est aussi, donc, pur dans le sens, ah, on voit absolument ce que c'est. Et donc, de là, on a aussi l'idée de sincérité. Donc, non contaminé, mais aussi sincère, sincérité. On a le mot irréprochable, et ça, c'est dans le sens d'être sans dommage, sans offense, sans causer des offenses. Donc, de se garder de commettre des péchés. C'est ça que Dieu veut de nous. Et puis, il y a aussi le mot justice, dont on a parlé de la justice. Au verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Alors, quand Paul dit « ce qui m'est arrivé », il ne veut pas dire qu'il a gagné le loto. Hein? Il a été battu, tabassé, il a été mis en prison et il est allé jusqu'à Rome comme prisonnier. Ce qui m'est arrivé, donc à comprendre, ce n'est pas positif, c'est négatif, eh bien, cela a contribué au progrès de l'Évangile. Donc on comprend, pour comprendre, que même dans ces circonstances négatives, il est au centre, concernant sa propre vie, il est au centre du plan de Dieu. Hein, parce que Dieu, il a un grand plan. Et quand nous vivons, nous voulons être dans le plan de Dieu. Le petit plan pour ma propre vie, mais le grand plan de Dieu pour l'humanité. Et Paul dit là que le fait qu'il a passé par ces mauvaises expériences a plutôt contribuer au progrès de l'Évangile. Maintenant, on va lire versets 13 à 18. En effet, dans tout le prétoire, et quand il parle du prétoire, il parle du palais de l'empereur Néron. Okay? En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés par un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc on comprend qu'il veut dire que l'évangile est véritablement annoncé. Ce n'est pas un faux évangile qui est annoncé, mais c'est l'évangile qui est annoncé. Quelques-uns par dispute, quelques-uns par amour, mais il dit, voilà, en tout cas, c'est l'évangile qui est annoncé. Et il est intéressant, au verset 14, je reviens vers le verset 14, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens. Ils ne sont pas désespérés, mais encouragés du fait que Paul est en prison à Rome et qu'il influence tout le prétoire. Ça a encouragé les frères et donc ils ont eu plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Je voudrais regarder dans Matthieu chapitre 10. Donc, je vais garder le doigt en Philippiens et je vais simplement regarder Matthieu chapitre 10 où Jésus parle aux croyants et aux non-croyants. Matthieu chapitre 10 et le verset 28. Donc, aux croyants, dans la première partie du verset 28, Jésus dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Il dit ça aux croyants. On peut vous tuer,
mais on ne peut pas tuer votre âme. L'âme est perpétuelle, éternelle. OK? Donc, ça peut arriver. Et ça s'est arrivé à Paul. À la fin, on l'a tué. Donc, Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Mais aux non-croyants, qu'est-ce que Jésus dit? Aux non-croyants, il dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, dans l'enfer, si vous voulez. OK? Donc, ici, Paul veut nous encourager de ne pas avoir peur. On doit annoncer l'Évangile. Je voudrais tourner aussi dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 1, verset 7 et la première partie du verset 8. 2 Timothée, hein, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. OK, donc ce paragraphe, le point, c'est que nous avons à témoigner. Nous devons témoigner. Maintenant, on va lire versets 19 à 26. Philippiens chapitre 1, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ça veut dire au ciel, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Donc dans ce paragraphe, nous apprenons, c'est Dieu qui nous dit, le paradis vous attend. C'est ça que Jésus a appris dans Jean chapitre 14. Il est mort, il est ressuscité, il est reparti chez lui pour faire quoi? Pour nous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures, je vais vous préparer une place. OK? Donc, quoi qui peut arriver, et rien de ce qui va vous arriver, ne peut jamais empêcher votre arrivée au ciel. C'est absolument certain. Donc, avec cette assurance, OK? C'est pas simplement pour nous assurer de notre place au ciel que Jésus a dit ça. Mais il dit ça parce qu'il veut que nous fassions notre travail ici-bas. Que nous nous efforçons d'accomplir, d'achever l'œuvre que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Donc, non seulement l'agréable, n'est-ce pas? Hein, ce n'est pas parce que, voilà, on va devenir millionnaire ou quelque chose, mais aussi le nécessaire. Donc, Paul lui-même a dit, je veux aller au ciel. Je veux être auprès de Jésus. Mourir, c'est le mieux, c'est un gain.
mais il dit, mais le plus nécessaire, c'est que je reste là. Donc, il dit, je suis persuadé que je vais rester ici-bas. Hein? Il avait plein d'autres épîtres à écrire. Donc, il ne pouvait pas partir encore. On avait besoin que tout soit écrit. Maintenant, on est dans Philippiens chapitre 1, au verset 27. Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, une preuve, sous-entendu, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutienne. Donc, ce paragraphe nous enseigne que notre comportement est important pour Dieu. Dieu observe. Il veut que nous ayons un comportement. Mais pas n'importe quel comportement. Il veut qu'on ait un comportement digne de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il ne faut jamais oublier qui vous êtes. Vous êtes chrétien. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Soyez digne de ce nom chrétien. Donc, j'ai dit que ces versets enseignent que notre comportement est important pour Dieu, mais ces versets nous enseignent également que la vie chrétienne est un combat. Mais ce n'est pas un combat avec les pistolets et les épées, avec les lances et les flèches. C'est un combat spirituel. C'est une lutte constante. Dieu nous prépare pour la bataille et Dieu nous accompagne dans la bataille. Alors, ce thème, qu'on a, on ne va pas le voir, mais c'est enseigné dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Donc, simplement comprendre que nous devons être dignes dans notre comportement de l'Évangile et nous devons participer dans cette lutte spirituelle, dans le combat. Alors maintenant, on est dans chapitre 2, Philippiens chapitre 2, chapitre 2, verset 1. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, et dans le grec ça veut dire « et il y en a ». Donc c'est une réponse, oui, c'est une affirmation posée comme question. Si donc il y a quelque consolation en Christ, et il y en a, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, et il y en a, s'il y a quelque communion d'esprit, et il y en a, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, et il y en a, okay, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Donc, il vient de dire que les uns prêchent avec sincérité de cœur l'évangile et les autres par esprit de dispute. Il vient de le dire, n'est-ce pas, dans le chapitre 1. Okay. Ne faites rien par esprit de parti ou vainglorie, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous. Donc, cette idée-là, nous utilisons le mot « déférence » quand nous laissons paisiblement la place à une autre personne par respect. C'est ça. Il est en train de parler de notre déférence les uns aux autres. Okay? Verset 4. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres. Alors, vous avez peut-être vu le film de John Nash. Donc, John Nash a appliqué cette idée du verset 4 à la théorie économique. Et il a reçu le prix Nobel de la paix pour cette théorie économique. Hein? Oui, je peux faire ça et gagner beaucoup aux dépenses de tout le monde. Ou je peux gagner un peu moins et tout le monde peut en profiter. C'est un peu comme ça, c'est son théorie. C'est facile de le dire comme ça, mais je suis sûr qu'il a écrit beaucoup plus que ça. OK? Et puis, on arrive au chapitre 2, versets 5 à 8. C'est l'histoire de Noël. On ne va pas focaliser sur la partie Noël, mais c'est quand même cette partie-là qui m'a incité à prendre ce texte aujourd'hui. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, il va parler de Noël. Mais il parle de Noël comme une illustration de comment nous devons être humbles. Il donne Noël comme un exemple pour nous à suivre. OK? Christ, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc, il n'a pas maintenu à tout prix son égalité avec Dieu. Parce que, son égalité divine. Parce que s'il avait fait ça, il ne serait jamais devenu un homme. OK? Mais, verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Donc, il s'est dévêtu de sa gloire céleste en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, hein, comme vous et moi. OK? Et il a paru comme un vrai homme. Bien sûr, il n'a pas eu le péché. Il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais porté la nature pécheresse. Mais en toute autre chose, il était comme nous. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et cela même jusqu'à la mort de la croix. Donc, à imaginer, même c'est même pas possible d'imaginer combien Jésus a perdu, si on peut le dire comme ça, ou combien il a dû se débarrasser, combien il a mis de côté afin de devenir un homme comme nous. Hein? Nous, on peut même, la meilleure illustration qu'on peut donner, c'est minime, c'est piètre par rapport au Dieu Tout-Puissant à qui tout appartient dans la gloire céleste et de devenir un pauvre bébé né dans un étable. C'est incroyable. OK? Son attitude et ses actes sont donnés comme notre modèle à nous. Il nous a donné ce modèle. Nous devons avoir la même attitude et faire semblable. Cela veut dire tout donner. On devait être prêt, si Dieu le veut, qu'on donne tout. Et donc l'exemple que Paul est en train de donner, c'est le tout, c'est quoi? Le tout, c'est la vie. OK? Certes, Jésus savait qu'à la fin, quand il aura tout donné, il allait ressusciter. Et il allait regagner sa gloire céleste. OK? On est d'accord? Oui. Pour la gloire qui était devant lui, il a subi ces choses. OK? Mais nous aussi, il faut le comprendre, nous aussi, comme nous avons lu tout à l'heure, nous savons qu'à la fin, nous irons à notre place promise au ciel. Donc si on meurt, on sait déjà, comme Jésus savait déjà, que notre place est assurée au ciel. Il allait regagner sa place, mais nous allons gagner notre place. Pas gagner dans le sens de bonnes œuvres, mais on va y aller. Après, versets 9 à 11, Paul dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc Jésus, après la résurrection, et donc crucifixion, résurrection, il est monté au ciel, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et le dernier paragraphe, avec verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça, c'est impressionnant. Dieu agit dans nos vies pour susciter en nous, premièrement, le désir de faire quelque chose. Et après, ou à l'inverse, tout cela, il nous équipe, il nous rend capable d'accomplir cette chose qu'il a mis en nous de vouloir faire. OK? Donc, un peu comme parler à un écolier, quoi. Si Dieu vous donne un devoir, pourquoi vous plaindre? Si Dieu vous donne un devoir, pourquoi? Oh, mais non, c'est pas possible, il faut que je fasse ça. Non, mais vous le faites parce que c'est comme ça. OK? Il travaille en vous pour que vous voudriez faire quelque chose. Après, il vous enseigne, il vous donne des expériences, etc., pour vous rendre capable de l'accomplir. OK? Après, il dit, et c'est normal, OK? Ça va de suite, OK? C'est presque humeur quand il dit ça. Donc, Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites de toutes choses sans murmurer ni hésitation. Ça va de soi, OK? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochable. Donc là, c'est un autre mot pour irréprochable et un autre mot pour pur. Donc, irréprochable, là, ça veut dire sans faute, comme un parfum agréable. Et pur, et donc pur ici, c'est l'idée d'être innocent, sincère, sans mélange et non sophistiqué. Donc, ça, c'est le mot pur là. Irréprochable et pur, des enfants de Dieu irréprochables, et c'est encore un autre mot avec le même français, mais la différence en grec. Ici, ça veut dire sans blâme, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc, le verset continue, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Mais moi, je voulais arrêter là. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc, je veux résumer tout ça en disant de prendre Jésus-Christ pour modèle de vie. Vous ferez une grande différence dans la vie de votre entourage. Okay? Soyons des lumières dans ce monde, selon le bon plaisir de Dieu. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Efforçons-nous d'être irréprochables. Donc, on a vu le mot irréprochable avec plusieurs mots grecs pour dire ce même mot en français. Non offensif, sans blâme, comme un parfum agréable. Puis efforçons-nous aussi d'être purs, et on avait deux mots en grec, donc transparent ou non contaminé, innocent, non sophistiqué. Que le Seigneur vous donne par son Saint-Esprit la force, l'amour, la sagesse pour vous équiper et vous encourager pour évangéliser. Il a dit, il faut annoncer sans crainte la parole. N'ayez pas peur de partager votre foi, mais plutôt que le Seigneur vous donne de l'audace pour partager votre foi. Que le Seigneur vous donne l'humilité de Christ et que le Seigneur nous aide à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Amen.